15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours ici dans ce studio, nous vous recevons de 15h à 16h, je dis nous, parce qu'il sort de consultation, il vient de poser son stéthoscope à l'instant, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Vous rigolez, vous n'avez pas de stéthoscope? Vous allez en consultation sans stéthoscope ou j'exagère?
Je l'ai laissé dans la mallette.
Ah bon, ça va. Il y avait quoi ce matin en consultation?
Énorme gastro-entérite, attention, il y a une petite épidémie, on n'en parle pas énormément, mais franchement, je vois plein de malades, adultes, enfants, donc bien se laver les mains, c'est pas terrible, mais voilà.
C'est bien important.
C'est la saison.
Allez, passons au programme du jour. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la rougeole. La rougeole qui fait des dégâts un peu partout dans le monde. Dans les îles Samoa, 70 personnes sont décédées. Mais même en France, ce virus circule intensément. Et le manque de vaccination inquiète les experts. On fera le point sur la situation avec notre invité, l'infectiologue Odile Lenné. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de microbiote et surtout d'un vaccin expérimental qui vient d'être testé par des chercheurs de l'INSERM pour soigner des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des hémorroïdes, un symptôme très fréquent qui touche autant les hommes que les femmes, mais qui est surtout très désagréable. Alors on fera le point, évidemment, sur ce sujet un peu tabou. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des préliminaires. Sont-ils vraiment indispensables pour une sexualité épanouie?
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Gaël, 32 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, avec ma femme, on essaie d'avoir un enfant, mais c'est un petit peu compliqué. Et je voulais savoir s'il y avait des positions plus à faire pour tomber enceinte, ou est-ce que voilà, c'est un mythe ou pas. Merci pour votre réponse et voilà, si vous pouviez m'apporter des propositions là-dessus. Bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues qui circulent sur les positions sexuelles qui favoriseraient ou pas une grossesse à coup sûr. Jimmy, vous avez 3 enfants, vous devez vous y connaître un petit peu. Mais c'est un mythe ou c'est une réalité?
Alors sachez Mélanie que tout se paye, mais on parlera après de mes enfants et des positions sexuelles. En tout cas, pour savoir s'il y en a une qui favoriserait la grossesse, eh ben non, malheureusement, il n'y en a aucune qui scientifiquement est plus efficace. C'est un mythe. En revanche, on sait qu'il faudrait lutter contre la gravité et que les spermatozoïdes lors de l'éjaculation...
Enfin, se servir de la gravité. Peut-être, non,
ouais,
c'est ça.
Alors, ouais. se servir, ou en tout cas, lutter pour éviter que les spermatozoïdes retombent, il faudrait que l'éjaculation soit au plus proche du col. Et donc, le monsieur voulait des exemples concrets. Donc, la position du missionnaire peut être intéressante, celle en cuillère, et puis la fameuse levrette, que tout le monde connaît évidemment. Bah, en ce moment-là, l'éjaculation est proche du col, et donc on favoriserait un peu plus, à ce moment-là, la grossesse. A contrario, éviter les positions où la femme serait sur l'homme, car les spermatozoïdes redescendraient immédiatement.
Plus rapidement. Donc, pas de position spécifique, si ce n'est éventuellement se faire aider de la gravité, comme vous venez de le dire. Donc, si on part de ce principe-là de gravité, faire le poirier, comme le conseillait ma grand-mère, pour quelques minutes après un rapport sexuel pour espérer tomber enceinte, ça pourrait marcher ou pas?
Alors, c'est pas scientifiquement prouvé, mais néanmoins, on pourrait le faire. Et si les femmes décident de le réaliser, ben, il faut se mettre 10 minutes dans cette position. C'est le temps que les spermatozoïdes... C'est le temps que les spermatozoïdes arrivent jusqu'au col. C'est pas scientifiquement prouvé, mais pourquoi pas si vous avez un désir de grossesse.
Si vous aimez la gymnastique. Alors finalement, qu'est-ce qui marche le mieux, Jimmy? On est d'accord, c'est juste... Ben en fait, viser l'ovulation quand même. Hein,
exactement.
C'est ça,
et vous pouvez vous aider des petits tests qui sont plus ou moins fiables pour savoir à quel moment l'ovulation a lieu. Et puis, les gynécologues sont assez unanimes. C'est la fréquence des rapports sexuels qui est très important. Et souvent, quand on interroge les couples qui ont un problème ou pas de fertilité, eh ben on se rend compte qu'ils n'ont pas assez de rapports. Et donc, il faudrait pendant la période d'ovulation, avoir un rapport 1 jour sur 2 pour maximiser le chance de grossesse.
Si on fait une fois et qu'on rate l'ovulation, effectivement, ça ne marche pas. Et est-ce que le plaisir, ça compte? Parce qu'il y a aussi des idées reçues qui circulent. Est-ce qu'il faudra absolument avoir un orgasme pour concevoir? Non, mais...
C'est pas obligatoire, mais...
Il y a quand même des histoires de spasmes vaginaux.
Exactement,
hein,
c'est ça, de contractions qui permettraient aux spermatozoïdes, bah encore une fois, d'atteindre plus facilement la fameuse cible. Et donc, les orgasmes seraient, on va dire, favorisants pour atteindre le col. Mais encore une fois, c'est pas scientifique et on peut avoir, évidemment, des enfants sans orgasme. Hein.
Merci beaucoup, merci Jimmy et merci. Donc, j'espère que Gaël a quelques réponses à sa question. Merci. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Johan, 37 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle aujourd'hui parce que je ressens des brûlures. Alors en fait, c'est surtout quand je suis aux toilettes, quand je fais pipi. À votre avis, ça peut être dû à quoi? Est-ce que je dois consulter? Merci à vous.
Bon, moi Jimmy, j'entends pipi, ça brûle. Je me dis infection urinaire, je suis pas médecin, mais est-ce que ça peut pas être ça?
Ouais, c'est pas mal. Ça me semble être un bon début. Ne pas traiter ce symptôme par le mépris. Donc la première chose, c'est de s'hydrater.
Ah, c'est vrai que c'est chez un homme déjà. Moi, je pensais que c'était plutôt chez les femmes.
L'infection urinaire est plus fréquente chez la femme pour des raisons anatomiques, mais chez l'homme, elle peut aussi exister. Et la première des choses, c'est de s'hydrater énormément pour rincer l'infection. Et puis c'est de consulter parce que c'est probablement une infection urinaire, mais là, il faudrait d'autres symptômes. Si vous avez une pesanteur pelvienne, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous avez un poids au niveau de la vessie. Vous allez faire pipi beaucoup,
souvent,
ça brûle.
Ouais.
Ou parfois, s'il y a du sang dans les urines, ce n'est pas un critère de gravité, mais ça peut orienter vers une infection urinaire. Le médecin fait une petite bandelette urinaire ou une analyse d'urine. On a le diagnostic et on traite avec des antibiotiques.
Bon, de toute façon, il vaut mieux consulter quand même, parce que ça pourrait être aussi autre chose, une prostatite ou
exactement,
un autre problème.
Ou une infection sexuellement transmissible, l'urétrite qui donne des signes urinaires avec un écoulement blanchâtre qu'on retrouve dans le slip, se traite différemment et donc il faut consulter. Au moindre doute, on fait une analyse avec un petit prélèvement.
Donc très bien, on consulte. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Si vous aussi, comme Johan qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un vaccin contre certaines maladies inflammatoires. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le professeur Odile Launay, responsable du centre de vaccinologie Cochin Pasteur, avec qui on va faire un point sur l'épidémie de rougeole actuelle à travers le monde. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Odile Launay, avec qui on va parler de rougeole aujourd'hui, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communication. Il s'agit d'un vaccin qui vise à modifier la composition et la fonction du microbiote intestinal. Encore une fois, on y revient sur ce microbiote. On en parle très souvent dans cette émission. Vous nous rappelez justement ce que c'est cette flore intestinale, ce microbiote?
Alors, notre tube digestif abrite plus de 1000 milliards de micro-organismes. C'est 2 à 10 fois plus que les cellules qui nous composent et ça représente un poids total de 2 kilos sur une personne qui fait 70 kilos.
C'est énorme.
Et le rôle entre microbiote et le déséquilibre du microbiote et maladie inflammatoire ou maladie auto-immune est en train d'être exploré et on a parlé de cette étude pour essayer de mettre le lien entre microbiote et maladies inflammatoires, notamment dans la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique.
D'accord. Et donc, dans cette étude, on a cherché en fait à modifier, donc grâce à un vaccin, vous allez nous en parler, ce microbiote pour éventuellement réussir à traiter donc, de la maladie de Crohn ou une autre maladie intestinale inflammatoire. Hein,
exactement.
C'est ça,
c'est l'équipe de Benoît Chassin, qui est chercheur à l'INSERM, qui a fait ça. Alors, on sait que dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique, on a des anomalies du microbiote intestinal. C'est valable chez les animaux et chez l'homme. On sait que ces malades ont une moins bonne diversité avec des bonnes bactéries qui sont en faible quantité dans la flore intestinale. Et au contraire, ils ont un excès de mauvaises bactéries. Et ces bactéries, elles expriment une protéine qu'on appelle la flagelline. Mmh. La flagelline, elle permet aux bactéries de se faufiler plus facilement et d'atteindre la couche de mucus qui recouvre la paroi intestinale et qui normalement est stérile. Et lorsque cette couche de mucus est envahie, elle entraîne de l'inflammation responsable de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Et donc, l'idée de Benoît Chassin et de son équipe, c'est d'essayer de stimuler des anticorps contre cette flagelline qui permet aux bactéries d'accéder au mucus et de se dire que si on réduit ces bactéries avec moins de flagelline, peut-être on pourrait réduire l'inflammation et traiter la maladie.
Et donc dans cette étude, ils ont vacciné des souris pour les immuniser contre cette fameuse flagelline. Hein,
exactement.
C'est ça,
et donc quand on les immunise contre cette flagelline, on se rend compte qu'on les protège contre l'inflammation intestinale et qu'en plus de ça, les mauvaises bactéries...
Quand on regarde dans leur microbiote,
dans leur microbiote,
souris,
exactement, la composition du microbiote, eh ben ces souris ont moins de mauvaises bactéries, elles sont moins fréquentes. Et par conséquent, elles sont moins malades.
Et alors, ces chercheurs, en plus, ont découvert que cette flagelline, elle pouvait aussi avoir un rôle important dans le diabète ou même l'obésité. Hein.
Exactement, ça pourrait entraîner des désordres métaboliques avec diabète et obésité. Du coup, ils sont aussi amusés à les vacciner. On a soumis des souris à un régime très riche et très gras. On en a vacciné certaines et d'autres non. Et celles qui ont été vaccinées ont été protégées du diabète et de l'obésité.
Oh, incroyable.
Une piste extraordinaire. Alors là,
bon,
c'est à l'échelle
creuser,
animale. Et l'idée serait ensuite, à travers de nanoparticules, d'ingérer des capsules pour modifier notre microbiote. Bref, on le dit souvent, mais c'est vraiment l'avenir et le médicament de demain.
Ouais, c'est la souris, mais on sait que cette équipe, d'ici 5 ans à peu près, espère entamer les essais cliniques, donc chez l'homme. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Odile Launay. Elle est infectiologue et responsable du centre de vaccinologie Cochin Pasteur à Paris.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Launay.
Bonjour.
Alors, avec vous aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de rougeole, une maladie que beaucoup continuent de sous-estimer, ne prennent pas au sérieux en tout cas. Mais là, l'actualité, elle parle d'elle-même. On a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe d'ailleurs toujours dans les îles Samoa. Il y a eu plus de 70 morts, beaucoup d'enfants, de bébés. Comment ça a pu arriver, cette chose-là, là-bas ?
La rougeole, ça a toujours été une maladie extrêmement contagieuse. On considère qu'une personne infectée va en infecter 9 autres. Donc c'est un virus qui se transmet très facilement et qui dissémine très vite. Et on a un vaccin, mais qui n'est pas utilisé de façon suffisante. Et donc aujourd'hui, en particulier dans les îles Samoa, mais c'est le cas aussi en République démocratique du Congo, à Madagascar.
Là-bas, ça tue plus que l'Ebola, je crois.
En République démocratique du Congo, le nombre de décès par rougeole est plus important que le nombre de décès par Ebola. Donc c'est vraiment une situation où on a un vaccin qui marche bien, mais un vaccin qui n'est pas utilisé suffisamment et donc une épidémie qui continue à se répandre.
Jimmy ?
Et notamment aux îles Samoa, c'est lié à un touriste néo-zélandais qui n'était pas vacciné et qui a transmis en fait du coup la rougeole à une personne qui a contaminé les
autres. Après, ça flambe, ouais.
Voilà, alors en fait, si un virus est introduit dans une population qui n'est pas suffisamment vaccinée, en fait, il va trouver suffisamment de personnes qui sont réceptives, qui n'ont pas d'anticorps pour transmettre le virus et finalement... entraîner une épidémie avec un nombre de cas extrêmement important.
Alors en France, on n'a pas cette situation-là pour le moment en tout cas, mais le virus de la rougeole, il circule chez nous aussi, on est d'accord ?
Alors en France, depuis 2008, en fait, on est confronté à des résurgences de rougeole avec des épidémies. Comme vous le disiez, ce sont des cas souvent qui sont importés par des personnes qui vivent dans des communautés où la vaccination n'est pas suffisamment utilisée et qui, parce qu'il y a des gens susceptibles, vont être responsables de petites épidémies. Alors, ça ne prend pas la proportion.
Il y a eu des décès en France.
Mais il y a
aussi,
eu, en France, on considère qu'il y a eu entre probablement une trentaine de décès dans
quand
les
même,
dix
oui.
dernières années.
Et ouais. Des gens, des adultes, des enfants aussi.
Alors, les formes les plus sévères se voient chez les personnes les plus fragiles, comme souvent en maladie infectieuse, donc les tout petits, avant qu'ils aient pu être vaccinés.
Avant un an, parce qu'on
avant
peut pas
un an
vaccin,
globalement. Chez les personnes qui ont un système immunitaire qui ne marche pas très bien, donc on a observé des décès chez des transplantés d'organes solides en particulier. Mais ça peut se voir aussi chez des adultes jeunes, en bonne santé, pour lesquels on peut avoir des complications extrêmement sévères et des décès.
Alors, on n'en a évidemment pas terminé avec vous. Professeur Launay, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va s'arrêter un peu plus près sur ce virus de la rougeole. Vous allez voir qu'il a un pouvoir de contagion assez énorme par rapport à d'autres. Une personne atteinte peut donc en contaminer jusqu'à 10 non vaccinés. Ça peut aller vraiment très vite. On vous expliquera tout. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est le professeur Odile Launay. Elle est infectiologue et responsable du centre de vaccinologie Cochin Pasteur à Paris. Alors, professeur Launay, on va s'intéresser d'un peu plus près à ce virus de la rougeole. D'abord, il faut préciser que c'est donc, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment l'un des plus contagieux qu'on est là autour de nous.
C'est probablement l'un des plus contagieux. C'est un virus qui se transmet par voie respiratoire. En fait, on excrète le virus dans les sécrétions respiratoires et à l'occasion d'un éternuement.
Si j'ai la rougeole et j'éternue à côté de vous, qu'il y a un postillon qui arrive. Ouais.
Si j'étais pas vaccinée, il y aurait presque 100% de chances que je sois infectée.
Ah oui.
Et plus que ça, en fait, on sait que le virus peut rester aussi dans l'environnement, dans l'atmosphère. Et il y a eu des cas de transmission de personnes qui n'ont pas été ensemble dans la salle d'attente chez un médecin, mais qui ont laissé en fait le virus à persister.
Donc si je postillonne et que ça atterrit sur la table, vous avez posé votre main,
ça peut persister. Donc c'est un virus vraiment contagieux.
Jimmy ?
Et on est contagieux pendant combien de temps et à partir de quand on l'est ? À partir simplement quand on a de la fièvre ou dès le début avec une période d'incubation ?
Alors on est contagieux 4 jours avant l'éruption. Donc c'est pas toujours facile de faire le diagnostic s'il n'y a pas une notion d'exposition dans les jours qui précèdent. Et on est contagieux 4 jours après le début de l'éruption. Donc ça veut dire que les 4 jours qui précèdent, souvent on n'a pas mis en place les mesures suffisantes et qu'on a un risque de contamination, en particulier si on est dans une salle d'attente. Il y avait eu comme ça un cas en maternité, en salle d'attente, où une femme enceinte est venue et ensuite ça a été un peu la panique.
Et c'est quoi les premiers symptômes ? Parce que vous dites on est contagieux avant, mais bon, une fois que les symptômes y sortent, c'est quoi qui sort ?
Alors
le
les premiers symptômes, c'est à la phase d'invasion, en fait, c'est souvent une sensation de mal-être, de la fièvre qui peut être très élevée, les yeux un peu rouges, donc finalement rien de très particulier. Tant que l'éruption, les boutons ne sont pas sortis, on peut passer à côté du diagnostic. Ce qui doit peut-être alerter, c'est la fièvre qui est vraiment très, très, très forte.
Jimmy ?
Et justement, si on a ces symptômes, ou si un parent a un enfant qui a ces symptômes, qui n'a pas été vaccinée, vous lui conseillez de faire quoi ? D'aller chez le généraliste avec une salle d'attente un peu blindée, de faire venir le médecin, d'aller aux urgences ?
Ouais, je pense que c'est difficile de conseiller d'aller aux urgences aujourd'hui avec le monde qu'il y a aux urgences. Mais je pense que si on a un enfant qui est comme ça un petit peu à risque, le mieux c'est d'appeler le médecin, SOS médecin à domicile pour éviter effectivement de transmettre l'infection aux autres personnes de la salle d'attente, en particulier des personnes fragiles.
Et ce qu'il faut dire, c'est que si on a cette maladie un jour ou l'autre, il n'y a pas de traitement aujourd'hui spécifique contre la rougeole. Hein.
Alors comme beaucoup de maladies virales, hein, on n'a pas de traitement. Donc on a ce qu'on appelle des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va donner des traitements contre la fièvre, des traitements contre la douleur. S'il y a une atteinte respiratoire, on va mettre le patient en réanimation. Et dans certaines situations, on va le mettre sous respiration artificielle, mais aucun traitement antiviral qui va éviter la réplication du virus. Donc, le seul traitement qu'on ait, c'est de la prévention. Il faut vraiment insister sur ce vaccin.
On en parlera tout à l'heure. Juste, pourquoi dans la tête des gens, ça reste encore une maladie de l'enfance, pas grave ? Moi, je connais pas mal de... Enfin, notamment ma belle-mère qui me l'a dit encore il y a pas longtemps, la rougeole, à mon époque, c'était pas grave.
Je pense que la rougeole, c'était une maladie obligatoire, en fait, hein, quand il n'y avait pas de vaccin. Donc, les enfants avaient tous la rougeole. Mais on sait que la rougeole, une fois sur 1000, elle va donner des complications. Donc, en France, c'est 700 000 naissances par an, 700 000 cas de rougeole. 1000 enfants auront des complications de la rougeole, ce qui représente un nombre important. Alors, peut-être qu'autrefois, c'était normal d'avoir un enfant malade, voire une mort d'une infection chez un enfant. Aujourd'hui, on n'accepte plus... les décès chez les enfants, d'autant plus quand il existe un vaccin.
Exactement. Alors, professeur Launay, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on parle plus en détail des complications de la rougeole, parce que oui, même si c'est certain, ça guérit comme ça, spontanément, sans problème, parfois ça tourne mal. La rougeole peut entraîner des séquelles graves, auditives ou même neurologiques, on va en parler. Et le vaccin, ça sert à ça, éviter les complications. Pour être bien protégé, il ne faut pas oublier par contre qu'il faut 2 doses. On vous dit tout dans quelques minutes. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, c'est le professeur Odile Launay. Elle est infectiologue et responsable du centre de vaccinologie Cochin Pasteur à Paris. Alors professeur Launay, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de traitement contre la rougeole, pas de traitement spécifique en tout cas. On traite les symptômes comme la fièvre ou autre. Et malheureusement parfois, cette rougeole, elle se complique. On en a déjà un petit peu parlé. C'est quoi les complications principales quand il y en a de cette rougeole ?
Alors déjà, la rougeole en soi, même quand elle n'est pas compliquée, hein, c'est une maladie sévère. Donc c'est déjà, je pense qu'il faut...
On est bien à plat, quoi.
C'est des fièvres très élevées, ça dure quand même 10-15 jours. Enfin, c'est une maladie, c'est pas juste le petit virus et le nez qui coule. Donc voilà. Alors après, le risque, c'est effectivement les complications. Peut-être que les complications les plus graves, c'est les complications neurologiques. Ça donne des encéphalites, c'est-à-dire une atteinte du système nerveux central avec des convulsions, des troubles de la conscience, des troubles de la concentration qui peuvent revenir à la normale, mais ce n'est pas rare que les gens gardent. On se retrouve en réa et on peut très bien garder des séquelles à type de surdité ou de troubles intellectuels, donc ce n'est pas du tout exceptionnel. On a ensuite des complications neurologiques qui peuvent être décalées, hein, et ça qui faisait une. Très très peur aux pédiatres qui aujourd'hui ont quasiment disparu, mais qui elles sont mortelles, hein, quelle que soit la prise en charge. Et puis on a des complications également respiratoires, pulmonaires, avec des patients qui vont se retrouver en réanimation. Et donc en France, sur les 10 dernières années, environ un quart des patients ont dû être hospitalisés à cause de la rougeole. Mmh. Hein, donc c'est quand même fréquent. Et on considère que les cas sévères, donc avec ces complications dont on parlait, c'est environ 7 à 10% des cas de rougeole.
Effectivement. Alors pour éviter toutes les complications dont on vient de parler, pourtant on a un moyen simple, c'est le vaccin. Le vaccin ROR qui est combiné avec Oreon et Rubéole. Hein. Aujourd'hui, il est obligatoire chez les enfants qui sont nés après 2018. Il est efficace ce vaccin ou pas ?
Alors on a un vaccin qui est un vaccin vivant atténué. Donc c'est un virus de la rougeole dont on a atténué... ce qu'on appelle la virulence, donc quand il va être administré à quelqu'un, il ne va pas entraîner la maladie. C'est un vaccin qui est tout à fait sûr, qui ne pose aucun problème particulier et qui fait partie des vaccins efficaces.
Pas d'effet secondaire en particulier ?
Sans effet secondaire particulier. Il y a quelques cas de thrombopénie qu'on peut voir, mais qui sont beaucoup plus fréquents avec le virus lui-même.
La thrombopénie, et juste en deux mots.
La thrombopénie, pardon, c'est des plaquettes qui sont un petit peu basses. Hein, c'est une complication de l'infection elle-même, donc ils peuvent se voir de temps en temps avec le vaccin. Et en revanche, son efficacité est importante à condition qu'on ait fait les deux injections de vaccin.
Jimmy,
chimie.
Et puis, il y a juste cette petite fièvre qui peut apparaître secondairement à 10-12 jours. Les parents, souvent, les prévient. Une petite éruption cutanée, parfois discrète.
Bien sûr.
Mais ça reste bien toléré. J'ai, sur Twitter, quelqu'un qui nous a posé la question pour savoir s'il est possible de vacciner un enfant contre le rubéole au rayon rougeole alors qu'il est allergique aux œufs, une allergie authentique, et apparemment son médecin lui aurait déconseillé la vaccination.
Alors les virus ne sont pas cultivés sur des œufs, hein, donc les vaccins qui sont cultivés sur œufs sont la fièvre jaune, pour lequel effectivement on est vigilant s'il y a une allergie vraiment prouvée aux protéines de l'œuf, et puis la grippe, mais là aussi la vaccination grippe maintenant peut être faite, y compris chez des gens qui ont une allergie à l'œuf.
Ce vaccin, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il est obligatoire aujourd'hui chez les enfants qui sont nés après 2018, il fait partie des 11 vaccins obligatoires. On le fait à quel âge, grosso modo, un an, et normalement la règle, c'est quoi quand on fait tout bien?
Alors aujourd'hui, la recommandation, c'est de vacciner dès l'âge de 1 an, avec la première dose à 1 an, et une deuxième dose entre 14 et 16 mois.
Et après, ils sont tranquilles pour la vie, les
et
enfants?
Et après, pour l'instant, ils sont tranquilles pour la vie, peut-être qu'un jour, on fera une troisième dose, en tous les cas, c'est pas à l'heure du jour. Et puis, en cas vraiment d'épidémie, on peut être amené à proposer la vaccination un peu plus tôt. Mais ça ne se fait pas en situation générale.
Jimmy ?
On a quelle couverture vaccinale en France ? Est-ce que on est plutôt bon ou pas terrible ?
Alors, on n'est pas parmi les bons élèves de l'Europe. Hein. On est parmi les mauvais élèves de l'Europe. Et on est le pays, parmi les 5 pays où il y a le plus de cas en Europe. Hein. Donc, on n'est pas très bon. Alors, il faut dire que c'est difficile d'être bon parce qu'il faut avoir 95% de couverture vaccinale si on veut éliminer cette maladie.
Pour plus qu'il circule, il faudrait qu'il y ait 95% de la population vaccinée.
Il faudrait qu'il y ait plus de 95% avec deux doses. Donc, il y a des pays qui sont arrivés à l'élimination. On pourrait imaginer qu'on éradique cette maladie. En France, on est plutôt aux alentours de 80%, donc on a un petit peu de travail encore à faire.
C'est surtout les adultes, je crois notamment, vous insistez beaucoup, les infectios, les médecins, j'entends souvent, attention à ceux qui sont nés après 1980, pourquoi cette date de 1980?
Alors en fait, le vaccin a été introduit dans les années 80, donc les gens qui sont nés avant ont eu la rougeole, hein,
donc
on l'a dit,
besoin.
C'était une maladie obligatoire, et la rougeole est très immunisante. Donc par contre, après, les gens plus jeunes, s'ils n'ont pas été vaccinés avec les deux doses, bah ceux-là, effectivement, ils sont à risque de faire la rougeole.
Et je crois que les jeunes adultes, justement, ceux-là, l'année après 80, ce sont ceux qui sont surtout à risque aussi de complications. Hein. Souvent, on en voit chez des adultes.
Hein. Le risque de complication de la rougeole est plus important chez l'adulte que chez l'enfant.
Chez l'enfant de 7-8 ans, c'est
voilà,
moins.
Ouais. C'est moins, il y a moins de complications, mais il y en a quand même. Et puis l'autre population à risque, c'est les tout-petits. Lorsque les anticorps de la mère ont disparu, là, ils sont à risque vraiment de faire des complications.
Pour les adultes qui nous écouteraient, qui ne savent pas s'ils sont vaccinés, qui ont peut-être perdu leur carnet de vaccination, ça existe. Hein. Moi, j'ai mon carnet de santé, mais je l'ai gardé précieusement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Si on ne sait pas, on peut le faire quand même, ce n'est pas grave d'être vacciné,
il y a aucun risque,
de faire un doublon. Quoi.
Il n'y a aucun risque à faire le vaccin. Au pire, si vous avez déjà des anticorps, ça va empêcher le virus vaccinal de se multiplier, mais il n'y a vraiment aucune contre-indication.
Et on refait deux doses.
Et on refait deux doses si on n'a pas la certitude d'avoir déjà été vacciné, ça pose aucun problème.
Jimmy ?
Est-ce que l'obligation de vaccination va améliorer la couverture vaccinale ou c'était finalement un effet de manche qui ne va pas être très efficace ?
Alors bien sûr, ça va augmenter la couverture vaccinale et on a déjà des premières données qui montrent que les couvertures vaccinales sont très élevées à plus de 95-97% chez les enfants qui sont nés. Donc c'est une politique qui marche, mais par contre, pour augmenter la couverture vaccinale sur l'ensemble de la population, il faut que les enfants qui sont nés depuis 2018 vieillissent, donc il va falloir un peu de temps. Et c'est pas la stratégie suffisante pour qu'on ait une couverture suffisante en France. Donc oui, pour les enfants, mais il faut aussi
faire un
promouvoir cette vaccination chez l'adulte et le grand enfant.
Merci beaucoup, professeur Launay, d'être venu sur notre plateau. On a bien compris l'urgence de la situation en ce qui concerne la rougeole et surtout l'intérêt évident de la vaccination pour en finir avec cette épidémie mondiale. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux hémorroïdes, un problème très fréquent, mais aussi souvent très gênant. Pourquoi certains font des crises d'hémorroïdes à répétition? Comment les soigner? On vous donnera plein de conseils. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence, les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des hémorroïdes. Savez-vous précisément ce qu'il se passe dans l'organisme quand on a une crise hémorroïdaire? Quels sont les facteurs de risque et surtout, comment ça se soigne? Benjamin Lévesque, notre reporter à qui aucune question ne fait peur, a été vous donner la parole. Oui, il a parlé quand même à des gens dans la rue sur les hémorroïdes, c'est pas évident, mais il a peur de rien, pas de sujet tabou dans son rendez-vous, on écoute son micro-trottoir.
Comment l'expliquer? C'est au niveau des fesses. Alors, de ce que j'en sais, c'est des petites boules de sang.
Oh, alors ça, c'est super désagréable.
Des gros boutons rouges, un peu purulents.
C'est pas une inflammation des vaisseaux sanguins au niveau du rectum?
J'ai une copine qu'on a eue après sa grossesse. Quand tu vas à la selle, ça saigne, mais c'est tout ce que je sais.
J'en ai jamais vu, j'en ai jamais touché, je ne sais pas.
Je pense qu'il doit y en avoir qui se voient physiquement et d'autres qui sont un peu plus internes.
Soit médicamenteux, soit une crème.
C'est quand même une partie qu'on utilise tous les jours, que ce soit à chaque fois qu'on va aux toilettes ou quoi. Donc à mon avis, c'est quand même important de le soigner à temps pour éviter d'accentuer le problème.
Ça pouvait généralement être lié à l'alimentation, par exemple quand on mange trop épicé.
Ça peut être la sodomie, le stress.
Voilà, j'ai toujours entendu dire par contre, reste pas trop longtemps aux toilettes parce que sinon tu vas en avoir.
Alors Jimmy, les hémorroïdes, hein, on a tous à peu près l'idée de où ça se passe, dans la zone dans laquelle on souffre de ça. Mais précisément, expliquez-nous ce que c'est. C'est vous le docteur d'ailleurs, vous devez en voir souvent, non j'imagine?
Oui, assez régulièrement.
C'est un motif de consultation assez fréquent,
c'est
je crois.
C'est très fréquent et les gens sont assez gênés. Parfois, ils tardent avant de consulter.
Ils viennent, vous arrivez dans le chez eux, puis vous dites oui, c'est un peu dur à sortir.
Et souvent, ils traînent et ils attendent plusieurs jours, alors que les symptômes peuvent être traités bien avant. Donc, il faut consulter et ne pas laisser traîner des hémorroïdes.
Alors c'est quoi précisément des hémorroïdes?
Alors on parle de maladies hémorroïdaires. Les hémorroïdes, c'est un réseau de vaisseaux, donc des artères et des veines qu'on a de façon naturelle. On a des hémorroïdes internes, donc qui sont au niveau de la muqueuse derrière l'anus.
Au niveau du canal anal, hein,
exactement.
Faut le dire.
Voilà. Et puis on a des hémorroïdes externes. Et puis pour une raison qu'on ne connaît pas spécialement, ces hémorroïdes, donc ces vaisseaux, vont devenir plus inflammatoires, gonflés, être responsables d'irritation, et le réseau superficiel va être encombré, responsable de l'hémorroïde, avec cette petite boule à l'extérieur ou à l'intérieur, qui va être très douloureuse et qui va faire que les patients vont consulter.
Alors on dit que c'est très fréquent, mais c'est-à-dire fréquent à quel point? Et est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Vous dites que les causes sont un peu mystérieuses, mais on en connaît deux, trois quand même, non?
Oui, ça touche autant les hommes que les femmes. C'est plutôt fréquent entre 40 et 65 ans. Et on sait qu'il y a certains facteurs qui peuvent les entraîner. Le premier, c'est la constipation. La constipation, c'est lié au fait que vous avez fait des efforts de poussée, donc vous augmentez la pression.
Les gens très constipés ont plus souvent d'hémorroïdes.
Ouais. Hémorroïdes. Et une étude anglaise a prouvé que les Anglais avaient plus d'hémorroïdes que les autres parce qu'ils passaient plus de temps sur leur smartphone aux toilettes.
Ah,
et donc,
d'accord.
Une station prolongée assise aux toilettes favorise les hémorroïdes.
Je me lève, tiens, d'ailleurs.
Donc voilà, levez-vous et surtout ne prenez pas votre téléphone aux toilettes. C'est une très mauvaise idée.
Assis trop longtemps, c'est un facteur de risque.
Exactement. Au contraire, le fait d'avoir des diarrhées très profuses peut entraîner des phénomènes d'irritation, donc on peut avoir des hémorroïdes avec de la diarrhée, la sédentarité, le surpoids, l'obésité, la consommation d'alcool ou de plats épicés, et puis certaines pratiques sportives. Le champion d'haltérophilie que je suis en colère rayon, si vous soulevez des poids, évidemment, vous êtes plus à risque d'avoir des hémorroïdes.
Et je crois, par expérience, on ne va pas entrer dans les détails, que la grossesse, c'est une période critique. Hein.
Exactement, plus d'un tiers des femmes souffrent d'hémorroïdes, et surtout en fin de grossesse, c'est 20% d'entre elles. Et puis, c'est lié au fait qu'elles sont constipées, la modification des hormones, parfois un travail difficile, et à ce moment-là, elles peuvent être embêtées, mais il y a des traitements, rassurez-vous.
Alors, très rapidement, justement, c'est quoi ces
régulariser
traitements?
Régulariser le transit, ouais. Il faut manger des fibres, une pommade.
Des légumes, allez.
Exactement, des antalgiques, souvent des anti-inflammatoires, une pommade pour calmer l'inflammation et puis qui peut entraîner une vasoconstriction des vaisseaux. Et puis parfois, il faut voir le proctologue qui peut traiter ces hémorroïdes lorsqu'elles sont thrombosées, c'est-à-dire que le sang ne passe plus. Il fait une petite incision, c'est pas très douloureux.
Là, hein,
c'est chirurgical, on s'en remet très bien, donc on peut traiter les hémorroïdes. Encore une fois, je le disais souvent, mais il faut consulter.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des préliminaires. Sont-ils réellement indispensables pour avoir une vie sexuelle satisfaisante? Elle nous dira tout. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, la préférée d'ailleurs du docteur Jimmy Mohamed, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors Catherine, aujourd'hui on a une question d'un homme, c'est rare, d'habitude on a des questions plutôt de femmes. Alors je vous la lis avec plaisir, cette question de Laurent. Tout se passe très bien avec ma nouvelle copine, seul bémol, je trouve qu'elle va trop vite lors des préliminaires et elle souhaite directement se faire pénétrer. Je n'ose pas lui en parler. Que me conseillez-vous? Alors Catherine, c'est vrai qu'on entend plutôt l'inverse d'habitude. C'est assez rare, non, une femme qui préfère se passer des préliminaires?
Pas tant que ça, parce qu'en fait, toute la difficulté, quand les femmes s'expriment de cette manière-là, ça peut poser deux questions. La première question, c'est éventuellement, a-t-elle du plaisir dans l'avant-pénétration? Et donc, finalement, elle réclame de passer cette étape qui est plus douloureuse pour elle qu'autre chose. Quand je dis douloureuse, je parle pas physiquement, mais psychologiquement.
Pénible,
parce que,
quoi, en tout cas.
Parce que souvent, dans ces préliminaires, quand les hommes sont tout attentionnés, parce que heureusement, il y en a, Et donc, tout attentionné en caresse, en cunilingus ou que sais-je, ou baiser, etc. Eh bien, c'est un moment où elles se sentent du devoir d'être dans une jouissance de cette générosité, alors qu'elles se sentent un peu toutes seules. Ou toute seule parce qu'elle ne ressent rien, ou toute seule parce que justement l'autre n'étant pas à sa jouissance de son côté, elle se sent du devoir de faire plaisir en montrant combien le cadeau est généreux et opportun. Et donc c'est trop long pour elle parce que c'est pas là qu'elle se sent en tranquillité, ou elle se sent trop observée et elle préfère directement la pénétration.
Jimmy ?
Mais qu'est-ce qu'on appelle les préliminaires ? Parce que je suis un peu dissipé, mais bon élève, et j'ai retenu que les cunnilingus fellations ne faisaient pas partie des préliminaires.
Vous êtes un excellent élève.
Et donc là on parle d'actes sexuels
Absolument. Et c'est là toute la difficulté, c'est que certaines personnes ont le sentiment qu'il y a un passage obligé aujourd'hui, quand hier il fallait se pénétrer par le trou de la chemise de nuit sans voir grand-chose et sans élaborer quoi que ce soit de physique et de sexuel, sans quoi ça aurait été complètement sauvage, animal, etc. Aujourd'hui, il y a comme un cahier des charges incroyable de s'embrasser, se caresser, se toucher, se masturber, se faire des gestes bucogénitaux, etc. avant d'en venir à une pénétration obligatoire, avant de changer quatre fois de position et avant d'arriver à la jouissance de madame pour que monsieur s'autorise sa jouissance à son tour. Donc tout ça devient très très compliqué parce que si ça peut être tout à fait une aventure sexuelle formidable, à chacun de décider de ce qu'il veut faire. Et par exemple, les fellations ou les cunnilingus sont de la sexualité, et ce qu'on devrait appeler préliminaire, c'est comment on s'appelle, comment on se projette de se retrouver, comment on se fait des clins d'œil, comment on se renifle avant même de se retrouver dans un corps à corps. Et c'est cela, les préliminaires. C'est avant le corps à corps.
Je ne sais pas si c'est de ça qu'il parle, Laurent, parce qu'il dit tout se passe très bien. Elle trouve qu'elle veut aller trop vite dans les préliminaires. Mais
il parle déjà de ce qui est de la sexualité, en effet, mais qui n'est pas pénétrante. Alors lui, il est peut-être en difficulté parce qu'il n'a pas tout de suite l'érection qui lui permet la pénétration, alors qu'elle l'exige. Ou alors il veut montrer il veut montrer tout son panache.
Mais c'est un échauffement un peu les préliminaires ou pas ? Ou c'est un peu
c'est pas un échauffement. Non, c'est peut-être une façon aussi, quand on a été chacun dans nos préoccupations, une façon de se mettre à corps. Parce que celui qui a l'érection n'est pas nécessairement en adéquation avec le corps qui va pouvoir accueillir cette érection. Celui qui est en désir et excité ne rencontre pas nécessairement l'érection qui lui permettra d'être pénétré. Donc c'est vrai que c'est un moment où on se met au diapason l'un de l'autre. Pour autant, c'est déjà de la sexualité.
Jimmy ?
Et comment on pourrait aider Laurent pour qu'il puisse finalement en parler à sa copine ? Est-ce qu'il faut qu'il verbalise les choses en disant écoute, tu ne fais pas assez ou on fait trop si, ou au contraire, advienne que pourra, et puis et qu'il soit content déjà d'avoir une copine et que c'est voilà, et qu'elle aille droit au but. Certains ne se plaindraient pas, en fait.
C'est ça, mais peut-être que pour lui, justement, son plaisir, il est justement de montrer combien il est généreux de toutes parts, et passer directement à la pénétration n'est pas nécessairement ce qui l'excite le plus. Surtout que ça, il se peut tout à fait que lui n'y trouve pas complètement son compte dans la pénétration. Que lui, finalement, une masturbation est plus excitante, une fellation est plus excitante. D'ailleurs, on parle qu'elle prend pas assez de temps en préliminaire, mais on a envisagé tous ici que ce puisse être les préliminaires qu'il lui faisait.
Peut-être
mais
qu'il n'est si pas bon en préliminaire aussi.
C'est surtout que peut-être ce dont il parle, c'est qu'elle lui laisse, c'est qu'il n'a pas le temps de recevoir les préliminaires et notamment la fellation, avant la possibilité de la pénétration. Donc c'est toujours difficile de comprendre derrière les mots d'une question un peu courte, mais si ça se peut, c'est qu'il trouve que ça va trop vite là où elle veut, c'est-à-dire qu'elle veut tout de suite, de son sexe, le prendre en elle, quand lui voudrait peut-être être caressé, qu'il voudrait peut-être avoir une fellation, etc. Donc je crois que de toute façon, dans tous les cas, c'est pouvoir se parler et se dire, je sais pas, tu n'aimes pas avant, ou tu n'aimes pas ou ce que tu recevrais ou ce que tu pourrais donner, ou ça me plairait de temps en temps, que ça soit pas systématique, mais on peut ne pas se plaindre en effet qu'elle puisse aimer la pénétration. Nombre de femmes éviteraient savamment la pénétration parce qu'il ne s'y passe rien. Donc reconnaître que c'est bon pour elle, puisque c'est ce qu'elle attend, à condition que ça ne soit pas pour clore rapidement, finalement, l'affaire qui ne lui convient pas, bien sûr. Mais en tout cas, qu'il parle.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on parlera de l'apnée du sommeil. Quels sont les signes? Quelles sont les conséquences pour notre santé? Nous verrons ce qu'il faut faire pour limiter le risque d'être atteint par ce syndrome qui touche plus de 4% de la population.